Extrait 1, où la mère choisit l'Indochine. Fille de paysan, elle avait été si bonne écolière que ses parents l'avaient laissée aller jusqu'au brevet supérieur. Après quoi, elle avait été pendant 2 ans institutrice dans un village du nord de la France. On était alors en 1899. Certains dimanches à la mairie, elle rêvait devant les affiches de propagande coloniale. « Engagez-vous dans l'armée coloniale !» Jeune, allez aux colonies, la fortune vous y attend. À l'ombre d'un bananier croulant sous les fruits, le couple colonial, tout de blanc vêtu, se balançait dans les rocking chairs, tandis que des indigènes s'affairaient en souriant autour d'eux. Elle se maria avec un instituteur, qui, comme elle, se mourait d'impatience dans un village du Nord, victime, comme elle, des ténébreuses lectures de Pierre Loti. Peu après leur mariage, ils firent ensemble leur demande d'admission dans les cadres de l'enseignement colonial. Ils furent nommés dans cette grande colonie que l'on appelait alors l'Indochine française. Suzanne et Joseph étaient nés dans les 2 premières années de leur arrivée à la colonie. Il y avait maintenant 6 ans qu'elle était arrivée dans la plaine, accompagnée de Joseph et de Suzanne, dans cette Citroën B12 qu'ils avaient toujours. Dès la première année, elle mit en culture la moitié de la concession. Elle espérait que cette première récolte suffirait à la dédommager en grande partie des frais de construction d'un bungalow. Mais la marée de juillet monta à l'assaut de la plaine et noya la récolte. Croyant qu'elle n'avait été victime que d'une marée particulièrement forte, et malgré les gens de la plaine qui tentaient de l'en dissuader, l'année d'après, la mer recommença. La mer monta encore. Alors elle dut se rendre à la réalité. Sa concession était incultivable. Elle était annuellement envahie par la mer.
Extrait 2, où certains colons font fortune. Monsieur Jot était le fils unique d'un très riche spéculateur dont la fortune était un modèle de fortune coloniale. Il avait commencé par spéculer sur les terres limitrophes de la plus grande ville de la colonie. L'extension de la ville avait été si rapide qu'en 5 ans, il avait réalisé des bénéfices suffisants pour investir à nouveau ses gains. Au lieu de spéculer sur ses nouveaux terrains, il les avait fait bâtir. Il avait fait construire des maisons de location à bon marché, dites « compartiments pour indigènes », qui avaient été les premières du genre dans la colonie. Ces compartiments étaient mitoyens et donnaient tous, d'une part sur des petites cours également mitoyennes, et d'autre part sur la rue. Ils étaient peu coûteux à construire, et ils répondaient alors aux besoins de toute une classe de petits commerçants indigènes. Ils connurent une très grande vogue. Au bout de 10 ans, la colonie pullula de compartiments de ce genre. L'expérience démontra d'ailleurs qu'ils se prêtaient très bien à la propagation de la peste et du choléra. Mais comme il n'y avait que les propriétaires pour avoir été avertis du résultat des études que les dirigeants de la colonie avaient fait entreprendre, il y eut des locataires de compartiments en toujours plus grand nombre. Le père de M. Jot s'intéressa ensuite aux planteurs de caoutchouc du Nord. L'essor du caoutchouc était tel que beaucoup s'étaient improvisés planteurs, du jour au lendemain, sans compétences. Leurs plantations périclitèrent. Le père de M. Jot veillait sur elles. Il les rachetait. Comme elles étaient en mauvais état, il ne payait que très peu de choses. Il les mettait en gérance, les remontait. Le caoutchouc faisait gagner beaucoup, mais trop peu à son gré. 1 ou 2 ans plus tard, il les revendait à prix d'or à de nouveaux venus, choisis de préférence parmi les plus inexpérimentés. Dans la plupart des cas, il put les racheter dans les 2 ans. Monsieur Jot était l'enfant dérisoirement malhabile de cet homme inventif. Sa très grosse fortune n'avait qu'un héritier, et cet héritier n'avait pas une ombre d'imagination. C'était là le point faible de cette vie, le seul définitif. On ne spécule pas sur son enfant. On croit couver un petit aigle ? Et il vous sort de dessous le bureau un serin. Et qu'y faire? Quel recours a-t-on contre ce sort injuste?
Le destin des enfants. Il en était de ces enfants comme des pluies, des fruits, des inondations. Ils arrivaient chaque année, par marée régulière ou si l'on veut par récolte ou par floraison. Chaque femme de la plaine, tant qu'elle était assez jeune pour être désirée par son mari, avait son enfant chaque année. À la saison sèche, lorsque les travaux des rizières se relâchaient, les hommes pensaient davantage à l'amour et les femmes étaient prises, naturellement, à cette saison-là. Et dans les mois suivants, les ventres grossissaient. Ainsi, outre ceux qui en étaient déjà sortis, il y avait ceux qui étaient encore dans les ventres des femmes. Cela continuait régulièrement, à un rythme végétal, comme si d'une longue et profonde respiration, chaque année, le ventre de chaque femme se gonflait d'un enfant, le rejetait pour ensuite reprendre souffle d'un autre. Jusqu'à un an environ, les enfants vivaient accrochés à leur mère, dans un sac de coton ceint au ventre et aux épaules. On leur rasait la tête jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'épouiller tout seuls, et ils étaient nus à peu près jusqu'à cet âge aussi. Ensuite, ils se couvraient d'un pagne de cotonnade. À un an, la mère les lâchait loin d'elle et les confiait à des enfants plus grands, ne les reprenant que pour les nourrir, leur donner, de bouche à bouche, le riz préalablement mâché par elle. Lorsqu'elle le faisait par hasard devant un blanc, le blanc détournait la tête de dégoût. Les mères en riaient. Qu'est-ce que ces dégoûts-là pouvaient bien représenter dans la plaine? Il y avait 1000 ans que c'était comme ça qu'on faisait, pour nourrir les enfants, pour essayer plutôt d'en sauver quelques-uns de la mort, car il en mourait tellement que la boue de la plaine contenait bien plus d'enfants morts qu'il n'y en avait eu, qui avaient eu le temps de chanter sur les buffles. Il en mourait tellement qu'on ne les pleurait plus. Depuis longtemps déjà, on ne leur faisait pas de sépulture. Simplement, en rentrant du travail, le père creusait un petit trou devant la case et il y couchait son enfant mort. Les enfants retournaient simplement à la terre comme les mangues sauvages des hauteurs, comme les petits singes de l'embouchure du rack. Ils mouraient surtout du choléra que donne la mangue verte. Mais personne dans la plaine ne semblait le savoir. Chaque année, à la saison des mangues, on en voyait, perchés sur les branches ou sous l'arbre, qui attendaient affamés, et les jours qui suivaient, ils en mouraient en plus grand nombre. Et d'autres, l'année d'après, prenaient la place de ceux-ci sur ces mêmes manguiers, et ils mouraient à leur tour, car l'impatience des enfants affamés devant les mangues vertes est éternelle. D'autres se noyaient dans le rack, d'autres encore mouraient d'insolation ou devenaient aveugles. D'autres s'emplissaient des mêmes vers que les chiens errants et mouraient étouffés. Et il fallait bien qu'il en meure.
Extrait 4. La ville coloniale des riches. Comme dans toutes les villes coloniales, il y avait deux villes dans cette ville, la blanche et l'autre. Et dans la ville blanche, il y avait encore des différences. La périphérie du haut quartier, construite de villas, de maisons d'habitation, était la plus large, la plus aérée, mais gardait quelque chose de profane. Le centre, pressé de tous les côtés par la masse de la ville, éjectait des buildings chaque année plus haut. Là ne se trouvait pas le palais du gouverneur, le pouvoir officiel, mais le pouvoir profond, les prêtres de cette Mecque, les financiers. Les quartiers blancs de toutes les villes coloniales du monde étaient toujours, dans ces années-là, d'une impeccable propreté. Il n'y avait pas que les villes, les blancs aussi étaient très propres. Dès qu'ils arrivaient, ils apprenaient à se baigner tous les jours, comme on fait des petits-enfants, et à s'habiller de l'uniforme colonial, du costume blanc, couleur d'immunité et d'innocence. Dès lors, le premier pas était fait. La distance augmentait d'autant, la différence première était multipliée, blanc sur blanc, entre eux et les autres, qui se nettoyaient avec la pluie du ciel et les eaux limoneuses des fleuves et des rivières. Le blanc est en effet extrêmement salissant. Aussi les blancs se découvraient-ils du jour au lendemain plus blancs que jamais, baignés, neufs, siestant à l'ombre de leur villa, grands fauves à la robe fragile. Dans le haut quartier n'habitaient que les blancs qui avaient fait fortune. Pour marquer la mesure surhumaine de la démarche blanche, les rues et les trottoirs du haut quartier étaient immenses. Un espace orgiaque, inutile, était offert aux pas négligents des puissants européens. Et dans les avenues glissaient leurs autos caoutchoutées, suspendues, dans un demi-silence impressionnant. Tout cela était asphalté, large, bordé de trottoirs, planté d'arbres rares et séparé en deux par des gazons et des parterres de fleurs le long desquels sillonnaient stationnaient des files rutilantes de taxis torpédos. Arrosées plusieurs fois par jour, vertes, fleuries, ces rues étaient aussi bien entretenues que les allées d'un immense jardin zoologique où les espèces rares des blancs veillaient sur elles-mêmes. Le centre du haut quartier était leur vrai sanctuaire. C'était au centre seulement qu'à l'ombre des tamariniers s'étalaient les immenses terrasses de leurs cafés. Là, le soir, ils se retrouvaient entre eux. Seuls les garçons de café étaient encore indigènes, mais, déguisés en blanc, ils avaient été mis dans des smokings, de même qu'auprès d'eux, les palmiers des terrasses étaient en peau. jusque tard dans la nuit, installés dans des fauteuils en rotin, derrière les palmiers, et les garçons en peau et en smoking, on pouvait voir les blancs, suçant Pernod, whisky soda ou Martel Perrier, se faire, en harmonie avec le reste, un foie bien colonial.
La ville coloniale des pauvres. C'était dans la zone située entre le haut quartier et les faubourgs indigènes que les blancs qui n'avaient pas fait fortune, les coloniaux indignes, se trouvaient relégués. Là, les rues étaient sans arbres, les pelouses disparaissaient. Les magasins blancs étaient remplacés par des compartiments indigènes, par ces compartiments dont le père de M. Jot avait trouvé la magique formule. Les rues n'y étaient arrosées qu'une fois par semaine. Elles étaient grouillantes, d'une marmaille joyeuse et piaillante, et de vendeurs ambulants qui criaient à s'égosiller dans la poussière brûlée. L'hôtel central où descendirent la mère, Suzanne et Joseph, se trouvait dans cette zone, au premier étage d'un immeuble en demi-cercle qui donnait d'une part sur le fleuve, d'autre part sur la ligne du tramway de ceinture, et dont le rez-de-chaussée était occupé par des restaurants mixtes à prix fixe, des fumeries d'opium et des épiceries chinoises.
Extrait 6, où Suzanne découvre un autre monde. La première fois que Suzanne se promena dans le haut quartier, ce fut donc un peu sur le conseil de Carmen. Elle n'avait pas imaginé que ce devait être un jour qui compterait dans sa vie que celui où, pour la première fois, seule, à 17 ans, elle irait à la découverte d'une grande ville coloniale. Elle ne savait pas qu'un ordre rigoureux y règne et que les catégories de ses habitants y sont tellement différenciées qu'on est perdu si on n'arrive pas à se retrouver dans l'une d'elles. Suzanne s'appliquait à marcher avec naturel. Il était 5 heures, il faisait encore chaud, mais déjà la torpeur de l'après-midi était passée. Les rues, peu à peu, s'emplissaient de blancs, reposés par la sieste et rafraîchis par la douche du soir. On la regardait, on se retournait, on souriait. Aucune jeune fille blanche de son âge ne marchait seule dans les rues du haut quartier. Celles qu'on rencontrait passaient en bande, en robe de sport. Certaines, une raquette de tennis sous le bras. Elles se retournaient, on se retournait, en se retournant, on souriait. D'où sort-elle cette malheureuse égarée sur nos trottoirs? Même les femmes étaient rarement seules. Elles marchaient en groupe. Suzanne les croisait. Les groupes étaient tous environnés du parfum des cigarettes américaines, des odeurs fraîches de l'argent. Elle trouvait toutes les femmes belles et que leur élégance estivale était une insulte à tout ce qui n'était pas elle. Surtout, elle marchait comme des reines, parlait, riait, faisait des gestes en accord absolu avec le mouvement général qui était celui d'une aisance à vivre extraordinaire. C'était venu insensiblement depuis qu'elle s'était engagée dans l'avenue qui allait de la ligne du tram au centre du haut quartier, puis cela s'était confirmé, cela avait augmenté jusqu'à devenir, comme elle atteignait le centre du haut quartier, une impardonnable réalité. Elle était ridicule et cela se voyait. Carmen avait tort. Il n'était pas donné à tout le monde de marcher dans ses rues, sur ses trottoirs, parmi ses seigneurs et ses enfants de rois. Tout le monde ne disposait pas des mêmes facultés de se mouvoir. Eux avaient l'air d'aller vers un but précis, dans un décor familier et parmi des semblables. Elle, Suzanne, n'avait aucun but, aucun semblable et ne s'était jamais trouvée sur ce théâtre.
Le prix d'une piste. La grande affaire de sa vie, c'était la piste. Il était arrivé pour sa construction. On lui avait dit « Toi qui es sourd, tu devrais aller construire la piste de rame. » Il avait été engagé dès les premiers jours. Le travail consistait à défricher, remblayer, empirer et pilonner avec des pilons à bras le tracé de la piste. C'eût été un travail comme un autre s'il n'avait été effectué à 80% par des bagnards et surveillé par les milices indigènes qui, en temps ordinaire, étaient affectés à la surveillance des bagnes de la colonie. Ces bagnards, ces grands criminels, découverts par les blancs à l'instar des champignons, étaient des condamnés à vie. Aussi les faisait-on travailler 16 heures par jour, enchaînés les uns aux autres, 4 par 4, en rang serré. Chaque rang était surveillé par un milicien vêtu de l'uniforme dit de la milice indigène pour indigène, octroyé par les blancs. À côté des bagnards, il y avait les enrôlés comme le caporal. Si au début on faisait encore une distinction entre les bagnards et les enrôlés, celle-ci finit par s'atténuer insensiblement, sauf en ceci que les bagnards ne pouvaient pas être renvoyés et que les enrôlés pouvaient l'être. Que les bagnards étaient nourris et que les enrôlés ne l'étaient pas. Et qu'enfin les bagnards avaient l'avantage d'être sans femmes, tandis que les enrôlés avaient les leurs qui les suivaient, installés en camp volant, à l'arrière des chantiers, toujours en train d'enfanter et toujours affamés. Les miliciens tenaient à avoir des enrôlés pour pouvoir avoir des femmes sous la main, même lorsqu'ils travaillaient des mois durant dans la forêt, à des kilomètres des premiers hameaux. D'ailleurs, les femmes, tout aussi bien que les hommes et les enfants, mouraient de paludisme, suivant un rythme assez rapide pour permettre aux miliciens, qui, eux, avaient des distributions de quinine afin sans doute de préserver l'existence de leur autorité de jour en jour plus assurée, plus imaginative, d'en changer suffisamment souvent. Car la mort d'une femme d'enrôlée valait au mari son renvoi immédiat.
Extrait 8, où les enfants ne comptent pas. Les enfants jouaient de la pluie comme du reste, du soleil, des mangues vertes, des chiens errants. Suzanne ne s'amusait plus d'eux comme du temps de Joseph. Maintenant, elle les regardait jouer, vivre, mais avec lassitude, ils jouaient. Ils ne cessaient de jouer que pour aller mourir, de misère, partout et de tout temps. À la lueur des feux qu'allumait leur mère pour échauffer leurs membres nus, leurs yeux devenaient vitreux et leurs mains violettes. Il en mourait sans doute partout, dans le monde entier, pareillement, dans le Mississippi, dans l'Amazone, dans les villages exsangues de la Mandchourie, dans le Soudan, dans la plaine de Kham aussi. Et partout comme ici, de misère, des mangues de la misère, du riz de la misère, du lait de la misère, du lait trop maigre pour leur misérable mère. Ils mouraient avec leur poux dans les cheveux, et dès qu'ils étaient morts, le père disait « C'est bien connu, les poux quittent les enfants morts, il faut l'enterrer tout de suite, sans ça on va être envahi. Et la mère attend que je le regarde, et le père, que deviendrons-nous si les poux se mettent dans la paillote de la case ?» Et ils prenaient l'enfant mort et l'enterraient encore chaud, dans la boue, sous la case. Et bien qu'il en mourût par milliers, il y en avait toujours autant sur la piste de rame. Il y en avait trop, et les mères les surveillaient mal. Les enfants apprenaient à marcher, à nager, à s'épouiller, à voler, à pêcher, sans la mère, mouraient sans la mère. Dès qu'ils étaient en âge de marcher, tout de suite ils rejoignaient la grande ligne de ralliement des enfants de la plaine, la piste et les ponts de la piste. De partout dans la plaine, de tous les villages, les enfants montaient à l'assaut de la piste. Quand ils n'étaient pas sur les manguiers pour cueillir les mangues qui jamais ne mûrissaient, c'était là, sur la piste, qu'on les trouvait. Et dans toute la colonie, partout où il y aurait des routes et des pistes, les enfants et les chiens errants étaient considérés comme la calamité de la circulation automobile. Mais, à cette calamité, jamais aucune contrainte, aucune police, aucune correction n'avait pu remédier. La piste restait aux enfants. Quand un automobiliste en écrasait un, il s'arrêtait parfois, payait un tribut aux parents et repartait. Le plus souvent, il repartait sans rien payer, les parents étant loin. Mais quand c'était un chien ou une volaille ou même un porc, les automobilistes ne s'arrêtaient pas. C'était à partir d'un enfant qu'ils perdaient un peu sur leur horaire. Et les autres se réformaient en dessein dès le départ de l'automobiliste. Car le dieu des enfants, c'était le quart de rame, la mécanique roulante, les klaxons électriques des chasseurs, la ferraille en marche, et ensuite les racks bouillonnants, et ensuite les mangues mortelles. Aucun autre dieu ne présidait aux destinées des enfants de la plaine.